Bonjour et merci d'être venu. Vous êtes très nombreux aujourd'hui pour accueillir avec moi Maïlys de Kerangal. J'en suis enchanté. Est-ce que vous nous entendez bien jusqu'au fond ? Je prends toujours ma petite précaution initiale parce que comme nous parlons sans micro, j'aime autant... Vous nous entendez bien ? Parfait, merci. Maïlys, je vous en prie. J'ai deux exemplaires d'un rebours sur la table aujourd'hui et non pas un seul. Pour une raison toute simple, c'est que le livre vient d'être retiré, il y avait eu un petit problème de fabrication. Ce qui fait que maintenant, pour le même prix, je parle toujours du prix du livre, c'est important, c'est un sujet unique que le prix du livre, à savoir 7,60 €, c'est dérisoire, vraiment dérisoire, c'est un peu plus que le prix d'un paquet de cigarettes pour 6 mois encore, disons. Mais voilà, pour 7,60 €, vous avez cette édition d'À rebours. J'aurai l'occasion à plusieurs reprises de dire tout le bien que j'en pense du point de vue éditorial. Cette édition a été procurée par Daniel Grojnowski, qui est un excellent spécialiste de la littérature de l'époque et qui a constitué un dossier vraiment remarquable avec des lettres, des réactions de contemporains qui remettent l'œuvre en situation. Donc pour 7,60 €, non seulement vous avez une œuvre superbe, mais vous avez une édition superbe, abondamment annotée, ce qui, comme on aura l'occasion de le dire, est précieux pour aborder un texte aussi, comme on disait Spinoza, difficile autant que rare, mais qui vraiment vaut la peine. Et pour en parler, donc, j'accueille aujourd'hui Maïlys de Kerangal, qui s'est bien gardé de me révéler dans le petit quart d'heure qui a précédé, en coulisses, qui a précédé notre rencontre, car comme toujours, cette rencontre est improvisée, qui s'est bien gardé de me révéler le ou les passages qu'elle a choisi de nous faire découvrir aujourd'hui. Une fois que Maïlys les aura lus, nous discuterons, comme toujours, à bâton rompu de ce roman-là et peut-être de bien d'autres choses. Mais j'ai hâte de savoir quels sont vos passages préférés de cette œuvre courte mais intense qu'est À rebours, et si particulière, parce que vraiment, on peut y choisir des pages très différentes les unes des autres. Alors, qu'avez-vous choisi ?
Alors, j'ai choisi un passage du premier chapitre sur la couleur.
Ah !
Ensuite, j'ai choisi le passage du chapitre, l'entrée du chapitre 8 sur les fleurs. Mmh. Vous entendez bien ? Pardon, excusez-moi. Alors, excusez-moi, pardon. J'ai choisi donc dans le premier chapitre un passage sur la couleur. Et ensuite, au début du chapitre 8, le passage sur les fleurs. Ces fleurs dont des essaims raffolent. Et j'espère aussi pouvoir lire un passage dans le chapitre 13 qui est sur la mélancolie.
Je pense que cet espoir sera comblé parce que vous avez toute l'attitude de procéder comme vous l'entendez.
Alors. Lorsque la maison de Fontenay fut prête et agencée, suivant ses désirs et ses plans par un architecte, lorsqu'il ne resta plus qu'à déterminer l'ordonnance de l'ameublement et du décor, il passa de nouveau et longuement en revue la série des couleurs et des nuances. Ce qu'il voulait, c'était des couleurs dont l'expression s'affirma aux lumières factices des lampes. Peu lui importait même qu'elles fussent, aux lueurs du jour, insipides ou rêches, car il ne vivait guère que la nuit, pensant qu'on était mieux chez soi, plus seul, et que l'esprit ne s'excitait et ne crépitait réellement qu'au contact voisin de l'ombre. Il trouvait aussi une jouissance particulière à se tenir dans une chambre largement éclairée, seul éveillé et debout au milieu des maisons enténébrées et endormies, une sorte de jouissance où il entrait peut-être une pointe de vanité, une satisfaction toute singulière que connaissent les travailleurs attardés, alors que, soulevant les rideaux des fenêtres, ils s'aperçoivent autour d'eux que tout est éteint, que tout est muet, que tout est mort. Lentement, il tria un à un les tons. Le bleu tire au flambeau sur un faux vert. S'il est foncé comme le cobalt et l'indigo, il devient noir. S'il est clair, il tourne au gris. S'il est sincère et doux comme la turquoise, il se ternit et se glace. À moins donc de l'associer, ainsi qu'un adjuvant à une autre couleur, il ne pouvait être question d'en faire la note dominante d'une pièce. D'un autre côté, les gris fers se renfrognent encore et s'alourdissent. Les gris de perles perdent leur azur et se métamorphosent en un blanc sale. Les bruns s'endorment et se froidissent. Quant aux verts foncés, ainsi que les verts empereurs et les verts myrtes, ils agissent de même que les gros bleus et fusionnent avec les noirs. Restaient donc les verts plus pâles, tels que le vert pan, les cinabres et les lacs. Mais alors la lumière exile leur bleu et ne détient plus que leur jaune, qui ne garde à son tour qu'un ton faux, qu'une saveur trouble. Il n'y avait pas à songer davantage au saumon, au maïs et aux roses, dont les efféminations contrarieraient les pensées de l'isolement. Il n'y avait pas enfin à méditer sur les violets qui se dépouillent, le rouge surnage seul, le soir, et quel rouge! Un rouge visqueux, un lit de vin ignoble. Il lui paraissait d'ailleurs bien inutile de recouvrir à cette couleur, puisqu'en s'ingérant de la santonine, à certaines doses, l'on voit violet, et qu'il est dès lors facile de se changer, et sans y toucher, la teinte de ses tentures. Ces couleurs écartées, trois demeuraient seulement. Le rouge, l'orangé, le jaune. À toutes, il préférait l'orangé, confirmant ainsi par son propre exemple la vérité d'une théorie qu'il déclarait d'une exactitude presque mathématique, à savoir qu'une harmonie existe entre la nature sensuelle d'un individu vraiment artiste et la couleur que ses yeux voient d'une façon plus spéciale et plus vive. En négligeant, en effet, le commun des hommes dont les grossières rétines ne perçoivent ni la cadence propre à chacune des couleurs, ni le charme mystérieux de leur dégradation et de leurs nuances, en négligeant aussi ses yeux bourgeois, insensibles à la pompe et à la victoire des teintes vibrantes et fortes, en ne conservant plus alors que les gens aux pupilles raffinées, exercées par la littérature et par l'art, il lui semblait certain que l'œil de celui d'entre eux qui rêve d'idéal, qui réclame des illusions, sollicite des voiles dans le coucher, est généralement caressé par le bleu et ses dérivés, tels que le mauve, le lilas, le gris de perle, pourvu toutefois qu'ils demeurent attendris et ne dépassent pas la lisière où ils aliènent leur personnalité et se transforment en de pur violet, en de franc gris. Les gens, au contraire, qui hussardent, les pléthoriques, les beaux sanguins, les solides mâles qui dédaignent les entrées et les épisodes et se ruent en perdant aussitôt la tête, ceux-là se complaisent pour la plupart aux lueurs éclatantes, des jaunes et des rouges, aux coups de cymbales, des vermillons et des chromes qui les aveuglent et qui les saoulent. Enfin, les yeux des gens affaiblis et nerveux, dont l'appétit sensuel quête des mets relevés par le fumage et les saumures, les yeux des gens surexcités et éthiques chérissent, presque tous, cette couleur irritante et maladive, aux splendeurs fictives, aux fièvres acides, l'orangé. Le choix de des essaintes ne pouvait donc prêter au moindre doute, mais d'incontestables difficultés se présentaient encore. Si le rouge et le jaune se magnifient aux lumières, il n'en est pas toujours de même de leur composé, l'orangé, qui s'emporte et se transmue souvent en une rouge capucine et un rouge de feu. Il étudia aux bougies toutes ces nuances, en découvrit une qui lui parut ne pas devoir se déséquilibrer et se soustraire aux exigences qu'il attendait d'elle. Ses préliminaires terminés, il tâcha de ne pas user, autant que possible, pour son cabinet au moins, des étoffes et des tapis d'Orient, devenus, maintenant que les négociants enrichis se les procurent dans les magasins de nouveautés, au rabais, si fastidieux et si commun. Il se résolut en fin de compte à faire relier ses murs comme des livres, avec du maroquin à gros grains écrasés, avec de la peau de cape, glacée par de fortes plaques d'acier sous une puissante presse. Les lambris, une fois parés, il fit peindre les baguettes et les hautes plaintes en un indigo foncé, en un indigo laqué, semblable à celui que les carrossiers emploient pour les panneaux de voitures, et le plafond, un peu arrondi, également tendu de maroquin, ouvrit, tel qu'un immense œil de bœuf, enchâssé dans sa peau d'orange, un cercle de firmament en soie bleue de roi, au milieu duquel montaient, à tire-d'aile, des séraphins d'argent, naguère brodés par la confrérie des tisserands de Cologne pour une ancienne chape. Après que la mise en place fut effectuée, le soir, tout cela se concilia, se tempéra, s'assit. Les boiseries mobilisèrent leur bleu soutenu et, comme échauffés par les oranges qui se maintinrent, à leur tour, sans s'adultérer, appuyés et en quelque sorte attisés qu'ils furent par le souffle pressant des bleus. en fait de meubles, Des Esseintes n'eut pas de longue recherche à opérer le seul luxe de cette pièce devant consister en des livres et des fleurs rares. Il se borna, se réservant d'orner plus tard de quelques dessins ou de quelques tableaux, les cloisons demeurées nues, à établir sur la majeure partie de ses murs des rayons et des casiers de bibliothèque en bois d'ébène, à joncher le parquet de peaux de bêtes fauves et de fourrures de renards bleus, à installer près d'une massive table de changeur du XVe siècle de profonds fauteuils à oreillettes et un vieux pupitre de chapelle en fer forgé, un de ces antiques lutrins sur lesquels le diacre plaçait jadis l'antiphonaire et qui supportait maintenant l'un des pesants in-folios du glossarium médié et in fine latinadidis du cange. Les croisées, dont les vitres, craquelées, bleuâtres, parsemées de culs de bouteilles aux bosses piquetées d'or, interceptaient la vue de la campagne et ne laissaient pénétrer qu'une lumière feinte, se vêtirent à leur tour de rideaux taillés dans de vieilles étoles dont l'or assombri et quasi sauré s'éteignait dans la trame d'un roux presque mort. Et enfin, sur la cheminée dont la robe fut elle aussi découpée dans la somptueuse étoffe d'une dalmatique florentine, entre deux ostensoirs en cuivre doré de style byzantin, provenant de l'ancienne abbaye du Bois de Bièvre, un merveilleux canon d'église aux trois compartiments séparés, ouvragé comme une dentelle, contint sous le verre de son cadre, copié sur un authentique vélin, avec d'admirables lettres de missels et de splendides enluminures, trois pièces de Baudelaire, à droite et à gauche, les sonnets portant ces titres, La mort des amants, L'ennemi, au milieu, le poème en prose intitulé Anywhere out of the world, N'importe où, hors du monde.
On procède vraiment comme vous voulez. Là, on est entré dans le roman. C'est le tout premier chapitre. Il est vrai que le premier chapitre est précédé d'une notice, une sorte d'avant-propos qui résume la vie de Des Esseintes jusqu'au moment où il choisit sa retraite. Et là, dans le premier chapitre, nous assistons donc à la construction, à l'élaboration et surtout à la décoration de la retraite de Fontenay, de cette espèce de coquille que Des Esseintes sécrète autour de lui, à l'image de son univers idéal. Voilà, donc on est vraiment entré dans le roman. Et le moment suivant que vous avez choisi donc, se situe au chapitre 8.
Oui, c'est au milieu du livre, à peu près. Des Esseintes est à ce moment-là reclus à Fontenay. Il n'est pas reparti, il n'est jamais rentré à Paris. Donc il est dans cette retraite. Et alors, il y a cette espèce d'atmosphère de suffocation qui a envahi un peu le roman, qui est, de mon point de vue, extrêmement bien décrite par l'intérêt qu'il porte aux fleurs, ces fleurs qui fanent et qui pourrissent, mais qui ont cette beauté extraordinaire, qui en font des objets fascinants, qui sont déjà présents là, puisqu'il dit que pour décorer cette salle à manger qui est importante, où tout va se jouer autour de la couleur, il n'a besoin que de livres et de fleurs rares.
Si je me souviens bien, effectivement, le roman comprend 16 chapitres, donc au huitième, on est à peu près au milieu.
Au milieu.
Les chapitres sont de dimensions variables, mais enfin bon, en termes chapitres, on est à peu près au milieu du roman. Et ce ne sont que des fleurs de serre chaude, je crois, des fleurs tropicales.
Alors je vais vous lire le début de ce chapitre. Il avait toujours raffolé des fleurs, mais cette passion qui, pendant ses séjours à Jutigny, s'était tout d'abord étendue à la fleur sans distinction ni d'espèce ni de genre, avait fini par s'épurer, par se préciser sur une seule caste. Depuis longtemps déjà, il méprisait la vulgaire plante qui s'épanouit sur les éventaires des marchés parisiens, dans des pots mouillés, sous des vertes bannes ou sous de rougeâtres parasols. En même temps que ses goûts littéraires, que ses préoccupations d'art s'étaient affinées, ne s'attachant plus qu'aux œuvres triées à l'étamine, distillées par des cerveaux tourmentés et subtils. En même temps aussi que sa lassitude des idées répandues s'était affirmée, son affection pour les fleurs s'était dégagée de tout résidu, de toute lie, s'était clarifiée, en quelque sorte rectifiée. Il assimilait volontiers le magasin d'un horticulteur à un microcosme où étaient représentées toutes les catégories de la société. Les fleurs pauvres et canailles, les fleurs de bouge, qui ne sont dans leur vrai milieu que lorsqu'elles reposent sur des rebords de mansarde, les racines tassées dans des boîtes au lait et de vieilles terrines, la giroflée par exemple, les fleurs prétentieuses, convenues, bêtes, dont la place est seulement dans des cache-pots de porcelaine peints par des jeunes filles, telles que la rose, et enfin les fleurs de haute lignée, telles que les orchidées, délicates et charmantes, palpitantes et frileuses, les fleurs exotiques, exilées à Paris, au chaud, dans des palais de verre, les princesses du règne végétal, vivant à l'écart, n'ayant plus rien de commun avec les plantes de la rue et les flores bourgeoises. En somme, il ne laissait pas que d'éprouver un certain intérêt, une certaine pitié pour les fleurs populacières exténuées par les haleines des égouts et des plombs dans les quartiers pauvres. Il exécrait, en revanche, les bouquets en accord avec les salons crème et or des maisons neuves. Il réservait enfin, pour l'entière joie de ses yeux, les plantes distinguées, rares, venues de loin, entretenues avec des soins rusés, sous de faux équateurs produits par les souffles dosés des poils. Mais ce choix définitivement posé sur la fleur de serre s'était lui-même modifié sous l'influence de ses idées générales, de ses opinions maintenant arrêtées sur toute chose. Autrefois, à Paris, son penchant naturel vers l'artifice l'avait conduit à délaisser la véritable fleur pour son image fidèlement exécutée, grâce au miracle des caoutchoucs et des fils des percalines et des taffetas, des papiers et des velours. Il possédait ainsi une merveilleuse collection de plantes des tropiques ouvrées par des doigts de profonds artistes, suivant la nature pas à pas, la créant à nouveau, prenant la fleur dès sa naissance, la menant à maturité, la simulant jusqu'à son déclin, arrivant à noter les nuances les plus infimes, les traits les plus fugitifs de son réveil ou de son repos. Observant la tenue de ses pétales, retroussés par le vent ou fripés par la pluie, jetant sur ses corolles matineuses des gouttes de rosée en gomme, la façonnant en pleine floraison, alors que les branches se courbent sous le poids de la sève ou s'élançant sa tige sèche, sa cupule racornie, quand les calices se dépouillent et quand les feuilles tombent. Cet art admirable avait longtemps séduit, mais il rêvait maintenant à la combinaison d'une autre flore. Après les fleurs factices, singeant les véritables fleurs, il voulait des fleurs naturelles, imitant des fleurs fausses.
On est au milieu du roman et on est en effet dans l'un de ces cœurs thématiques. Mais enfin, ce roman-là a plusieurs cœurs thématiques. Là, on est effectivement au cœur de la dialectique entre nature et artifice, qui est vraiment l'un des fils rouges du livre et de l'esthétique de Des Esseintes et peut-être aussi de Huysmans quand même. Et votre troisième extrait ?
Alors, le dernier passage, en fait, donc Des Esseintes. Bon, c'est un livre où il ne se passe rien, sauf cet homme qui s'acharne à vivre et à se rendre vivant aussi dans ces objets qu'il étudie, dans ce décor qu'il a mis en place, etc. Il est quand même très seul. La dernière partie du livre est quand même habitée par à la fois une espèce de dépression noire qui a trait à un doute, un vacillement proche d'un mysticisme encore assez rentré. Et je voulais lire quand même ces moments où l'on rentre quand même dans l'idée de la mélancolie. Alors moi, j'avais choisi le chapitre 13, notamment pour son attaque, que j'aime beaucoup, que je trouve très belle. La saison allait en se détraquant. Toutes se confondaient cette année-là. Après les rafales et les brumes, des ciels chauffés à blanc, tels que des plaques de tôle, sortirent de l'horizon. En deux jours, sans aucune transition, au froid humide des brouillards, au ruissellement des pluies, succéda une chaleur torride, une atmosphère d'une lourdeur atroce. Attisé comme par de furieux ringards, le soleil s'ouvrit, une gueule de four, dardant une lumière presque blanche qui brûlait la vue, une poussière de flammes s'éleva des routes calcinées, grillant les arbres secs, rissolant les gazons jaunis, la réverbération des murs peints au lait de chaux, les foyers allumés sur le zinc des toits et sur les vitres des fenêtres, aveugla. Une température de fonderie en chauffe pesa sur le logis de Des Esseintes. À moitié nu, il ouvrit une croisée, reçut une bouffée de fournaise en pleine face. La salle à manger où il se réfugia était ardente et l'air raréfié bouillait. Il s'assit, désolé, car la surexcitation qui le soutenait, depuis qu'il se plaisait à rêvasser en classant ses livres, avait pris fin. Semblable à tous les gens tourmentés par la névrose, la chaleur l'écrasait. L'anémie maintenue par le froid reprenait son cours, affaiblissant le corps débilité par d'abondantes sueurs. La chemise collée au dos, trempée, le périnée humide, les jambes et les bras moites, le front inondé, découlant en larmes salées le long des joues, des essaintes gisaient anéanties sur sa chaise. À ce moment, la vue de la viande déposée sur la table lui souleva le cœur. Il prescrivit qu'on la fît disparaître, commanda des œufs à la coque, tenta d'avaler des mouillettes, mais elles lui barrèrent la gorge. Des nausées lui venaient aux lèvres. Il but quelques gouttes de vin qui lui piquèrent, comme des pointes de feu, l'estomac. Il s'étancha la figure. La sueur, tout à l'heure tiède, fluait maintenant froide le long des tempes. Il se prit à sucer quelques morceaux de glace pour tromper le mal de cœur. Ce fut en vain. Un affaissement sans borne le coucha contre la table. Manquant d'air, il se leva. Mais les mouillettes avaient gonflé et remontaient lentement dans le gosier qu'elles obstruaient. Jamais il ne s'était senti aussi inquiet, aussi délabré, aussi mal à l'aise. Avec cela, ses yeux se troublèrent, il vit les objets doubles, tournant sur eux-mêmes. Bientôt les distances se perdirent. Son verre lui parut à une lieue de lui. Il se disait bien qu'il était le jouet d'illusions sensorielles et il était incapable de réagir. Il fut s'étendre sur le canapé du salon, mais alors un tangage de navire en marche le berça et le mal au cœur s'accrut. Il se releva et résolut de précipiter par un digestif ces œufs qui l'étouffaient. Il regagna la salle à manger et mélancoliquement se compara, dans cette cabine, aux passagers atteints du mal de mer. Il se dirigea en trébuchant vers l'armoire, examina l'orgue à bouche, ne l'ouvrit point, et saisit sur le rayon, plus haut, une bouteille de bénédictine qu'il gardait, à cause de sa forme qui lui semblait suggestive en pensée, tout à la fois doucement luxurieuse et vaguement mystique. Mais pour l'instant, il demeurait indifférent, regardant d'un œil atone cette bouteille trapue, d'un vert sombre, qui à d'autres moments évoquait en lui les prieurés du Moyen-Âge avec son antique panse monacale, sa tête et son col vêtus d'une capuche de parchemin, son cachet de cire rouge écartelé de 3 mitres d'argent sur champ d'azur et scellé au goulot, ainsi qu'une bulle, par des liens de plomb, avec son étiquette écrite en latin, retentissant sur un papier jauni comme déteint par les temps, « Liquor Monacorum Benedictanorum Abbatiae Ficassensis ». Sous cette robe tout abbatiale, signée d'une croix et des initiales ecclésiastiques POM, serrée dans ses parchemins et dans ses ligatures, de même qu'une authentique charte, dormait une liqueur couleur de safran, d'une finesse exquise. Elle distillait un arôme quintessentiel d'angélique et d'hysope, mêlé à des herbes marines, aux iodes et aux bromes alanguis par des sucres, et elle stimulait le palais avec une ardeur spiritueuse dissimulée sous une friandise toute virginale, toute novice, flattait l'odorat par une pointe de corruption enveloppée dans une caresse, tout à la fois enfantine et dévote. Cette hypocrisie qui résultait de l'extraordinaire désaccord établi entre le contenant et le contenu, entre le contour liturgique du flacon et son âme toute féminine, toute moderne, l'avait jadis fait rêver. Enfin, il avait longuement aussi songé devant cette bouteille aux moines même qui la vendaient, aux bénédictins de l'abbaye de Fécamp qui appartenaient à cette congrégation de Saint-Maur, célèbre pour ses travaux d'histoire, militait sous la règle de Saint-Benoît, mais ne suivait point les observances des moines blancs de Citeaux et des moines noirs de Cluny. Invinciblement, il lui apparaissait, ainsi qu'au Moyen-Âge, cultivant des simples, chauffant des cornues, résumant dans des alambics de souveraines panacées, d'incontestables magistères. Il but une goutte de cette liqueur et il éprouva, durant quelques minutes, un soulagement. Mais bientôt, ce feu qu'une larme de vin avait allumé dans ses entrailles se raviva. Il jeta sa serviette, revint dans son cabinet, se promena de long en large. Il lui semblait être sous une cloche pneumatique où le vide se faisait à mesure et une défaillance d'une douceur atroce lui coulait du cerveau par tous les membres. Il se roidit et n'y tenant plus, pour la première fois peut-être depuis son arrivée à Fontenay, il se réfugia dans son jardin et s'abrita sous un arbre d'où tombait une rondelle d'ombre. Assis sur le gazon, il regarda d'un air hébété les carrés de légumes que les domestiques avaient plantés. Il les regardait, et ce ne fut qu'au bout d'une heure qu'il les aperçut, car un brouillard verdâtre flottait devant ses yeux et ne lui laissait voir, comme au fond de l'eau, que des images indécises dont l'aspect et les tons changeaient.
Et vous dites qu'il ne se passe rien, c'est une chose.
Ah oui, oui, oui. Tout est... D'ailleurs, enfin, il se passe tout. Il se passe la vie, ah, il oui. se passe toutes les perceptions du vivant. Mais si vous voulez, du point de vue du roman, de ce que ce roman-là fait au roman à l'époque où il est publié, c'est un livre très particulier du point de vue de la narrativité, de l'action, etc. Vous voyez, c'est une situation...
Non, c'est pas un roman de gare.
Non.
D'ailleurs, vous avez pu entendre passer au hasard des morceaux et de la lecture quelques termes un peu rares.
Beaucoup.
Pas trop. Il y a des passages beaucoup, beaucoup plus denses. Visiblement, Huysmans avait fait un énorme effort de documentation en écrivant son roman. Mais ça, c'est cet aspect-là, le travail de l'auteur, le travail de l'écrivain et le travail de documentation qu'il s'impose pour aborder certains sujets. C'est quelque chose dont on pourra peut-être reparler plus tard. Parce que avec ces trois entrées... Que vous proposez dans le roman, il y a déjà tellement à dire. Sur le premier chapitre, le chapitre des couleurs, vous avez le désesseinte encore maître de son destin, ou se croyant maître de son destin, se construisant son univers à sa guise, son univers qui est une retraite. Le premier chapitre s'achève sur une citation de Baudelaire, « Anywhere out of the world », « N'importe où hors du monde ». Comme si c'était possible. D'une certaine façon, on pourrait considérer peut-être que le roman, justement, est une...
C'est son projet.
Voilà.
En fait, c'est quand même le projet de cet homme. C'est à un moment donné de tourner le dos au monde qui est le sien, à l'époque surtout qui est la sienne, et aux hommes, enfin, dans un espèce de geste comme ça, de négation, et d'aller... s'enfermer dans cette maison à Fontenay-aux-Roses, où il va instaurer un monde qu'il va totalement contrôler d'une certaine manière. Hein. Il va en contrôler les moindres ajustements. C'est pour ça que ce passage sur la couleur, il est intéressant, parce que on voit les soins obsessionnels que prend Désesseinte, et ça, c'est qu'une partie, parce que bon, il y a le choix des meubles, il y a le choix des matières, des bois, des tissus, etc. Et en fait, il y a l'idée quand même d'instaurer un monde à sa mesure et un monde totalement contrôlé, hein, qui est quand même assez intéressant, et alors qui évidemment résonne aussi avec la pratique littéraire, c'est-à-dire est-ce que justement dans l'écriture, il n'y a pas comme ça l'instauration d'un monde où finalement on décide, parce qu'il n'y a pas rarement... enfin, un livre, c'est aussi un lieu de décision, c'est-à-dire il y a quasiment une décision à chaque mot, c'est fou ce qu'on décide comme chose dans un livre. Et quand il tria les tons un à un, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute cette idée des essais, de cette espèce de travail qui est quand même assez progressif, par élimination... et de cette confrontation des couleurs entre elles, etc., qui au début du livre est quand même assez impressionnant. Enfin, pour moi, les chapitres d'entrée à rebours sont quand même très impressionnants de ce point de vue là c'est absolument pas une entreprise coquette ou bourgeoise de se faire un intérieur confortable. C'est l'idée de... Alors, pour moi, ça me fait beaucoup penser à... Je ne sais pas si vous avez lu « Éloge de l'ombre ».
Mais oui, Tanizaki.
Bon,
oui.
Pour moi, c'est Tanizaki, là. C'est-à-dire, en fait, c'est que des réglages de lumière, des réglages de matière, des réglages de sens, en fait, hein, de ce qui peut se donner à éprouver avec les sens. Et ça, c'est très impressionnant, je trouve.
Mais c'est en effet tout sauf bourgeois.
Là, il y a beaucoup de ce que j'ai lu. On sent la haine de la bourgeoisie autant que la haine de ce qu'il appelle, voilà, notamment sur les fleurs. C'est assez drôle, il y a des fleurs qu'il déteste, les fleurs communes avec des pots peints par les jeunes filles, etc. Mais tout est comme ça dans le livre. Il y a une espèce de... Il tourne le dos à la fois, enfin, il le dit, ça revient comme un leitmotiv, à la médiocrité, mais aussi une espèce de bon goût bourgeois. Enfin,
Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, j'y pense en vous écoutant, que Désesseinte, d'une certaine façon, avait, en créant Désesseinte, Huysmans nous donne à voir, en quelque sorte, fantasmatiquement ce qu'aurait été Alceste dans son désert, Alceste dans sa retraite. Parce que Désert Saint est aussi un misanthrope.
C'est un misanthrope. Oui,
enfin, et un terrible misogyne, en parenthèse.
Oui, oui.
Plus misogyne encore que misanthrope, s'il est possible.
Oui, je trouve que ce qui est un peu différent, c'est que pour moi, Désir Saint est dans un mouvement de retrait. C'est un moment où il se retire du monde. On est dans exactement ce qui est un livre de retraite qui s'amorce quand même dans un mouvement, alors que j'ai l'impression que la misanthropie d'Alceste, elle est là de tout temps. On sent quand même Désir Saint, il est arc-bouté aussi sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que je trouve que tout le roman est tendu. Ce qui fait la tension du livre, c'est le dehors-dedans, intérieur-extérieur. Et en fait, pour moi, le livre fonctionne aussi et m'émerveille aussi parce que cette tension, elle dure tout le livre. Et finalement, elle n'est pas résolue. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin, bon, la maladie va le ramener à Paris, mais il n'y a pas vraiment il ne statue pas là-dessus. J'ai l'impression que ça pourrait être un Alceste, mais alors, voilà, un Alceste en retraite, j'ai toujours l'impression qu'Alceste, il porte quand même cette espèce de misanthropie comme une seconde peau, alors qu'il est possible de penser que Désir Saint a été un être sociable à un moment donné. Vous voyez ? Et que là, il est dans une espèce de claustration volontaire après avoir fait l'expérience du monde, notamment le repas qui est décrit au début du livre, qui est cette espèce de dîner, comme un dîner de deuil, où la salle à manger est tendue de noir, et on va déguster que des mets extrêmement raffinés, mais qui vont rappeler un espèce de repas d'enterrement. Voilà, c'est un peu ses adieux à la scène, d'une certaine manière. Et pour ça, c'est impressionnant. Mais ce qui demeure, ce qui est compliqué dans À Rebours, c'est que c'est cette tension vers l'extérieur. C'est quand même un homme qui va s'enfermer à Fontenay-aux-Roses et de là ne va cesser de filtrer, de bluter, on pourrait dire, pour reprendre ce verbe de la première page qui est quand même très, très sidérant, l'époque, c'est-à-dire par les œuvres d'art. Et il va passer son temps, en même temps il y a quelque chose du ressassement, de la vitupération, il va sélectionner des œuvres qui vont lui permettre de toujours s'arc-bouter. Qu'est-ce qui se passe dehors, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, de quoi est fait la société, comment continue à vivre la société que j'ai désertée. Ça continue de le préoccuper longtemps, je trouve. Il n'est pas dans une espèce d'ascèse et de méditation, il est quand même totalement crispé sur des objets qui sont souvent des tableaux, des musiques, de la littérature, et auxquels qu'il examine comme étant des œuvres qui finalement font entrer le dehors dans cette maison de Fontenay, qui sont un peu l'écho de l'époque.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, en relisant le roman, quelques années après votre première lecture, alors que vous étiez encore étudiante, est-ce que vous avez eu le sentiment que, maintenant que vous êtes vous-même romancière, qu'en inventant Désir Saint, Huysmans s'inventait un alter ego sur lequel conduire une expérience jusqu'au bout?
Oui. Oui. J'ai eu le sentiment, en fait, quand j'ai... Comme je l'écris dans le texte de présentation, je pense que j'ai été extrêmement effrayée par ce livre quand je l'ai lu il y a 20 ans. En fait, ce qui m'effrayait beaucoup, c'était son amoralité totale, notamment par l'aspect très transgressif de la misanthropie, de la misogynie, de cette espèce de ces assertions extrêmement élitistes, ce qui serait hyper droitier d'une certaine manière à aujourd'hui, et qui j'étais quand même assez sidérée, vous voyez. Pour moi, il y a aussi toute la porosité au mal, et il y a cette espèce de on voit quand même se profiler le mysticisme qui vient après, mais qui est un mysticisme assez tardif et qui est matiné de spiritisme, de satanisme, etc. Et en même temps, J'ai été fascinée, mais je voyais comme un objet noir et brûlant. Et quand je l'ai relu, j'ai été quand même extrêmement impressionnée par l'entreprise du roman. C'est-à-dire ce que vous dites, c'est-à-dire la création d'un personnage qui est possiblement l'avatar de Wismans, enfin le... et sur lequel conduire cette expérience de retrait. C'est-à-dire on isole un homme et à travers lui, on fait vriller, on filtre toute une époque. Et j'ai trouvé que c'était... Alors, du coup, c'est un livre qui est très sur dedans-dehors, mais aussi, il y a cette atmosphère de comme on le disait tout à l'heure, c'est un roman où, il n'y a que cet homme qui est chez lui dans cette maison. C'est la chronique d'une retraite. Et en même temps, c'est un roman qui est extrêmement dense, extrêmement excité, extrêmement fébrile, de bout en bout. Et ça aussi, pour moi, c'est une expérience de lecture. Il n'y a à aucun moment, ça ne faiblit. Et je pense que c'est aussi parce que c'est un roman, où le texte, où le corps est au centre du livre. C'est-à-dire que ce qui me fascine, c'est que il y a toutes ces pages pour déployer un décor. C'est vrai que c'est un livre qui se lit aussi comme un cabinet de curiosité. Enfin, il faut lire la description. Bon, ça, c'est des passages très célèbres d'À rebours que je n'avais pas choisi, mais il y a la Salomé, il y a les tableaux d'Odilon Redon, Gustave Moreau, etc., qui sont décrits très précisément dans le livre, parce que Wismans, c'était critique d'art. Mais vous voyez, il y a quand même tous ces objets, ces musiques, ces livres. Mais si vous voulez, ce qui domine pour moi, c'est que tout est filtré par le corps et par la perception. C'est un livre hyperactif, d'une certaine manière. On voit ce qu'il fait sur les fleurs. Bon, j'ai lu le début, mais après, il y a tout ce qui tourne autour de l'odorat, qui est extrêmement original, je trouve. Et tout est de cet ordre. C'est-à-dire, les perceptions sont activées. Les curseurs de la perception sont très hauts tout le temps dans le livre, alors que, finalement, on est sur une espèce de motif mélancolique, mais qui ne prend pas. C'est plutôt un livre extrêmement excité. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de paradoxe encore entre « il ne se passe rien et il se passe tout ». Tout est extrêmement déplié. Bon, moi, ce que j'aime le mieux dans le livre, c'est quand même le premier tiers avec toute l'installation, qui pour moi fait écho à ce qu'est un projet romanesque, comment il se prépare, etc. Je trouve ça très fort. Mais c'est vrai qu'il y a une expérience qui est possible parce que tout passe quand même par le corps. C'est un homme seul qui vit par ses sens activés au plus haut point tout le temps. J'ai eu ce sentiment-là.
Oui, parce que moi j'ai eu le sentiment que Wismans, en créant son personnage, se donnait les libertés en tant qu'auteur et s'offrait les plaisirs que Wismans, petit fonctionnaire de ministère, ne pouvait pas et ne pourrait jamais se payer. À travers des essais, d'une certaine façon, il s'invente un personnage qui lui permettrait enfin de jouir pleinement
de jouir de ses sens,
par tous ses sens. Et par ses sens, effectivement, portés à un degré d'intensité presque extatique.
C'est impressionnant. D'ailleurs, on le voit dans la langue. Les adjectifs qualificatifs sont toujours extrêmement précis, extrêmement... On est plongé dans un bain sensoriel de la première page à la dernière, et ce bain ne s'édulcore jamais, ça ne faiblit pas.
Dépression
de la fin.
Il écrit comme des essaims choisis.
Oui, sûrement, bien sûr.
Il choisit ses termes et il les incruste dans sa phrase, un peu comme des essaims constituent sa marqueterie sensorielle, son intérieur.
L'idée de la marqueterie, tout à fait. Oui. Et après, ce que je trouve étonnant dans ce livre, c'est quand même un livre extrêmement, extrêmement singulier. Enfin, il faut quand même dire que c'est un ovni, ce livre, d'une certaine manière.
Y compris pour Wismans lui-même, je crois, non ?
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un côté si peu narratif. Je trouve que quand même tous ces livres sont assez spéciaux. Peut-être celui-ci serait le plus singulier, je ne sais pas. Il est aussi assez narratif par rapport aux autres, parfois. Par rapport à Là-bas, par exemple, qui est vraiment le livre de la dépression. Mais Mais je trouve que, par exemple, ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est que par le biais de... Enfin, évidemment, c'est que par le biais de cette espèce d'activation sensorielle d'un homme, voilà, qui se retire du monde et qui va la mettre, qui met l'époque devant lui, enfin, il y a une espèce de mise à distance du coup du regard. C'est-à-dire que là où le livre est quand même assez impressionnant, c'est que évidemment qu'au bout d'un certain... Au bout du projet, il y a quand même la captation de ce que c'est que la psyché de son personnage. Enfin, c'est-à-dire que on finit par pénétrer par cette espèce d'activation. On finit par pénétrer évidemment la psyché de l'auteur. Et moi, ce que je trouve très beau, et alors pour le coup, c'est le revers que j'ai plus découvert là et qui m'a fait moins peur. Enfin, qui m'a fait moins peur. J'étais pas, mais je veux dire, j'avais été quand même. Je trouvais que c'était un livre très noir et un peu brûlant et un peu. Il est dangereux. C'est un livre très transgressif, etc. Enfin, je pense qu'il a encore ces côtés-là. Mais là, je trouve que c'est une œuvre qui fonctionne avec des oxymores. Enfin, c'est un système de paradoxes qui articule tout le livre. Et il y a cette idée de la mélancolie et pourtant des curseurs hyperactivés. Et je trouvais aussi que, par exemple, pour moi, c'est un livre qui est extrêmement intéressant sur le roman lui-même. C'est-à-dire que c'est aussi le par rapport au genre romanesque qui pourrait tout accueillir, finalement. C'est un livre qui accueille de la critique d'art. Enfin, il y a quand même, par moments, on n'est plus dans la narration. On a l'impression que Huysmans incorpore dans son texte sur de larges motifs, pas simplement sur quelques lignes, mais parfois sur des pages entières, des critiques de tableaux. Vous voyez, c'est-à-dire que on quitte par moments la langue du roman pour aller chercher celle... plutôt, de mon point de vue, de la critique d'art. Et ça agrège plusieurs...
C'est intéressant parce que le mot critique lui-même vient d'un verbe grec qui signifie bluter.
Bluter, oui, tamiser.
Tamiser, tamiser. Passer au tamis. Mm-hmm. Et vous avez à plusieurs reprises parlé de ce roman comme d'une espèce de filtre appliqué par Huysmans sur son époque.
Oui,
une façon de filtrer l'époque et d'en retenir ce qui finalement... lui souverainement l'intéresse et de refuser ce que lui souverainement décide maintenant de refuser et de porter ça à ses ultimes conséquences et de voir ce qu'il en advient.
Oui, c'est ça. Et je trouve que par exemple, il y a quelque chose qui me marque énormément. Enfin, je pense que ceux qui ont lu le livre ou qui le lisent, par exemple, c'est l'aspect extrêmement insupportablement péremptoire de Huysmans qui coupe étrange, qui est quand même par moments. Enfin, quand je dis au début, c'est tout sauf un texte aimable. C'est-à-dire que c'est quand même un homme qui vous... C'est comme lire le livre de quelqu'un qui vous tourne le dos tout le temps. Enfin, c'est quand même très, très particulier à rebours. Et je trouve qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a ce côté péremptoire, très méprisant, très dédaigneux, très élitiste. Ça, c'est bien. Et en même temps... ce qui est, voilà, il y a cette espèce de filtre, et ce qui reste, et ça je trouve ça extrêmement émouvant, et tout à l'heure j'amorçais cette idée pour dire que c'est ce qui le ramène dans un champ très humain, c'est que c'est le doute, le vacillement, c'est-à-dire que c'est au fond, un peu avant la fin du livre, on voit bien que au terme de cette expérience ne reste presque que le doute et la confrontation avec la mort. Et ça, j'ai trouvé ça, et ça m'est apparu extrêmement violemment à cette lecture-là. Je l'avais pas senti comme ça quand je l'avais lu à 20 ans. Je l'avais pas vu comme ça. J'avais vu le cabinet de curiosité, tout ce qui touchait à l'époque, à la fois Barbet, parce que moi je le disais parce que j'avais lu Barbet d'Aurevilly, et donc j'étais un peu dans le sillage de ces lectures, un peu des de ces auteurs de la fin du 19e qui sont assez excités, assez nerveux, très dandys, des écritures extraordinaires, mais sur un côté un peu décadentiste, etc. Et en même temps, je trouvais, bon, pour moi, c'était un tel... parfois il y a une telle méchanceté, il y a un tel manque d'empathie que je trouvais que c'était compliqué. Et là, au terme de cette lecture-là, en fait, je trouvais que ce qui restait à la fin, c'était quelque chose d'assez émouvant, quoi. C'est comme si cette expérience, il l'amène sur lui-même. Et à la fin, dans cette maison où tout a été instauré avec cette obsession, ce soin, etc., reste un espèce de trouble métaphysique, une espèce de vacillement et de confrontation avec ce qui périt, en fait. Et je trouvais ça extrêmement émouvant.
C'est pour ça que vous dites que c'est le corps qui se trouve finalement au centre de ce roman.
Oui, parce que je trouve que... Alors, c'est le corps, on voit bien quand même que ce qui le fascine, c'est... assez vite, c'est tout ce qui fane, tout ce qui pourrit, tout ce qui... rien ne va rester, etc. Il est quand même dans une méditation très noire tout au long du livre. Mais je trouvais que, pour moi, ce qui place le corps au milieu, c'est tout ce qui touche au monde sensoriel. Et c'est vrai qu'à la fin, j'avais le sentiment qu'une fois que toute cette expérience avait été menée... voilà, j'ai le sentiment d'un espèce de tremblement, d'une oscillation qui le conduit d'ailleurs à cette espèce de maladie de la faim et qui va le conduire à être rapatrié à Paris. Enfin, c'est-à-dire que lui, il y a cette expérience qui est comme un échec, hein, c'est ce qu'il dit à la fin, assez clairement à la fin du livre. Et pour autant, voilà, on a le sentiment aussi qu'il veut revoir le monde aussi. C'est à mettre en écho, en résonance avec la question de la mort, qui est aussi un autre. Enfin, il y a le vrai. Il y a plein de lignes qui souterraines, qui innervent tout le livre, comme un maillage d'ailleurs très dense et très complexe. Il y a le vrai et le faux, etc. Mais il y a pour moi quand même la question de la mort qui est là dès le début, jusqu'à la fin.
Vous parliez de corps tout à l'heure et vous avez mis en rapport le corps avec un motif de la pourriture, de l'usure, de la déchéance, on aurait pu dire de la décadence aussi bien. Ça ferait un latiniste penserait au mot cadavre, cadaver. Le cadavre, c'est le corps en tant qu'il tombe, en tant qu'il est appelé à tomber dans la chute définitive qu'est la mort. Et de fait... Le corps qui est d'abord isolé, filtré, bluté, représenté, sublimé dans des œuvres, dans des peintures, dans des œuvres d'Odilon Redon ou de Gustave Moreau, la grande Salomé de Gustave Moreau, le corps est toujours en effet traversé par sa propre fin, par sa mortalité, par son usure. Les fleurs qu'il achète, c'est en effet un. Vous n'en avez lu que le début, mais oui. Vous vous rappelez comment ça se termine.
Ben c'est à sa femme. Enfin,
C'est un ratage absolu. Toutes les fleurs qu'il achète et qui sont décrites avec leur nom savant de façon spectaculaire, c'est un feu d'artifice botanique.
C'est magnifique.
Et tout fane. Tout fane, tout pourri, tout devient répugnant. Mais. Au-delà de ce ratage concret, si je me souviens bien, le chapitre se poursuit par le récit d'un cauchemar. Est-ce que ce n'est pas dans ce chapitre-là que Des Esseintes fait un cauchemar épouvantable où il se voit confronté avec la grande vérole ?
Oui, exact. Oui, c'est tout est une préfiguration de ça. Mais je me disais que... après, je me disais dans cette histoire de corps et de... Parce que la maladie, par exemple, est là aussi assez tôt dans le livre. Enfin, la hantise de la maladie. Alors, c'est vrai qu'il y a ce cauchemar. Par ailleurs, dans le passage que j'ai lu, c'est-à-dire la canicule, devient très vite une maladie, elle aussi. C'est-à-dire il y a cette espèce de... Il est rongé, en fait. Alors, il est rongé dans... En plus, l'idée du cauchemar, ça se recoupe avec l'idée qu'on est soi-même que la nuit. Enfin, c'est ce qu'il dit dès le début du livre quand il va arranger la salle à manger. C'est-à-dire que, en fait, pour lui, ce qui compte, c'est l'aspect que peut prendre un décor, le décor d'une pièce, la nuit. parce que c'est la nuit qu'on est au plus proche de soi. Et c'est vrai que ce chapitre effectivement est suivi du chapitre sur, enfin du cauchemar, ouais, ouais. Et des délires d'ailleurs, en fait. Il y a des moments qui sont assez délirants, mais je pense que il y a cette idée d'être de quelque chose qui est rongé. On disait voilà, qui se fane ou qui pourrit. Il y a une atmosphère qui est suffocante, mais qui est liée à la claustration, qui est liée à l'enfermement. Et au fait, vous avez entendu, c'est dans le passage donc, au chapitre 13, c'est la première fois où il sort profiter du jardin. Hein, donc on est au chapitre 13. Et en fait, il ne sort pas dehors. Donc il y a cette espèce de claustration, de suffocation, et il y a quelque chose qui le ronge. Alors qui est, que moi je mettais un peu, que je mettais aussi en rapport avec le doute, vous voyez, quelque chose qui me semble assez présent à la fin du livre quand même. Le doute notamment sur la question de la foi, la question de, on sent que au terme de cette expérience, il y a ce qui ronge et ce qui le tenaille et ce qui le rend fébrile, c'est aussi il y a la question de la déchéance, mais il y a aussi la question de la foi.
Oui, parce que ce que vous dites sur le corps, ça me fait aussi penser à ce motif constant dans tout le roman, qui est le motif de la nature, ouais. Ou plutôt le motif de l'anti-nature, des essaintes. D'ailleurs, c'est ce qui en a fait à l'époque aussi un peu un étendard, et ou se veut tout sauf naturel, d'une certaine façon. C'est un,
oui, alors, c'est aussi une, un. C'est une conversion, moi. C'est une conversion, enfin, oui. Pardon, excusez-moi, de la part de Huysmans, c'est une conversion. Et d'ailleurs, donc cette phrase, je voudrais maintenant que ces fleurs factices ressemblent à des vraies fleurs, et maintenant je veux que les vraies ressemblent à des fausses. Hein. Mais. En fait, il faut quand même rappeler que ce qui est fascinant chez Huysmans, c'est aussi son parcours comme auteur.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est un auteur qui vient du naturalisme.
Voilà, la question de la nature, c'est aussi une question d'écriture, justement.
Ouais. Et que, ouais, et que il vient d'un territoire littéraire il est en pleine migration au moment où à rebours, c'est aussi un moment de bifurcation, de décrochage total du naturalisme, et notamment de l'influence de Zola, auquel il dédie Les Sœurs Bâtard, je crois. Oui. Mais c'est vrai que c'est incroyable d'opérer cette espèce de volte-face, parce qu'on voit bien dans tout ce qui est écrit dans À rebours, témoigne de sa haine du naturel, comme étant... comme étant justement le vulgaire d'une certaine manière, et qu'en fait non seulement dans le soin qu'il y apporte, dans la rigueur formelle qu'il déploie pour le faire et aussi pour l'écrire, dans l'instauration des décors, etc., on voit bien qu'il ne peut y avoir de beauté que dans une forme d'élaboration formelle qui est extrêmement sophistiquée en ce qui le concerne, enfin, et d'une recherche. Rien n'est pas objet de technique et d'art, en fait.
Hein.
Tout est esthétique. Il y a une esthétisation de la vie. C'est-à-dire que tout relève de l'art et de la technique. Rien n'est... les choses, je hais les fleurs qui poussent sur les comme ça dans la moussure des pavés. Enfin, voyez, c'est ça qu'il dit dans les aux jointures des c'est rien de ce qui surgit comme ça naturellement ne lui plaît. Il faut que tout soit conforme à une forme de
reconstruction,
de formalisation, en tout cas qui marche quand même avec un goût pour la sophistication, la rareté, la préciosité, le maniérisme, tout ce qui est de l'ordre du précieux. Et effectivement, le décalque de ça, il se lit dans la langue, c'est-à-dire que c'est quand même une langue qui est extrêmement, il y a des formes, c'est une langue précieuse, on peut le c'est extraordinaire. Enfin, bon, je dis précieux au sens de la recherche, en fait. Rien n'est écrit de manière non plus naturelle dans ce livre, hein, y compris les échanges. Il y a très peu d'échanges de style direct, enfin d'oralité, il n'y en a quasiment pas. Mais je trouve qu'il y a une... C'est la préciosité, si vous voulez, dans l'idée de la rareté. Et je pense que d'ailleurs, c'est génial ce qu'il dit sur les fleurs, et c'est aussi très... Et ce qu'il dit sur les couleurs, il dit que dans la mesure où le plus grand nombre s'approprierait un objet, une teinte, une fleur, une couleur, pour lui, tout perd de sa valeur. C'est-à-dire que finalement, les choses n'ont de valeur, de prix, il ne les reconnaît que dans leur rareté, donc dans leur étrangeté et dans la recherche qu'elles ont impliquée. C'est quand même assez fascinant, venant du naturalisme, ayant pris la défense de Zola dans des prises de parole, etc. Il a d'abord, voilà, il allait à Médan avec tous les autres jeunes auteurs. Donc il vient de la chronique, il vient de la chronique sociale, etc. Et c'est étonnant de voir qu'il y a une espèce de raidissement dans le dandysme, qui est au contraire la singularité,
enfin, oui, c'est Baudelaire contre Zola, en quelque sorte.
Ah ben oui, là, il a carrément choisi. Mais je dis, c'est vraiment l'idée de la, ouais, de porter à son acmé ce qu'est l'individu, la singularité, l'expression d'une psyché, d'une sensibilité, etc. C'est ça qui a du prix, parce qu'il est l'objet du commun. Alors ça, c'est compliqué aussi. J'aime dire les effets de traîne. Il y a une façon de ne vouloir pas faire commun avec qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il ne veut plus faire commun avec personne. Il ne veut trouver de commun avec rien. Enfin, il y a une sécession du monde qui est très forte et qui le rend intrigant, transgressif, inquiétant et aussi assez insupportable, je pense. Enfin, il y a quelque chose de très... Il y a des passages très durs quand il demande aux... Alors, je pense me souvenir, mais il y a les deux gardiens, ce couple, il leur demande de se revêtir de capuchons pour pas les voir, enfin, pour quand ils vont passer devant ces fenêtres, voir juste des silhouettes et ne surtout pas voir leur visage, qu'ils soient finalement réduits à un espèce de graphisme comme ça qui n'appelle pas d'autres faces humaines.
Il fait installer l'escalier à l'extérieur de la maison pour ne pas entendre leurs pas quand ils montent à l'étage. Voilà, pour ne pas être dérangé. Des accessoires humains les plus invisibles possibles. Mais pour en revenir à cette histoire de nature, c'est que, au fond, c'est comme si tout d'un coup, suivant une sorte de pente instinctive, vers le milieu des années 1880, Huysmans, qui jusque-là était un écrivain de second rang et un humble sectateur de Zola, et un protégé et un fidèle de Zola.
Oui, c'était Dickens.
Voilà, ils s'écrivent, ils l'appellent Zola maître. Tout d'un coup, suivant sa pente, suivant son fantasme, et commençant à écrire ce qui d'abord ne devait être qu'une nouvelle, se laisse entraîner sur des territoires de plus en plus singuliers, parce que vous avez parlé de ce goût de l'exquis, de la sécession, du snobisme agressif des Hyacinthes, qui va jusqu'à se faire imprimer des livres pour lui seul, à exemplaires uniques sur papier ultra rare, avec reliure, archive, enfin, vous voyez le genre. C'est comme si, suivant ce besoin d'expression de la singularité, tout d'un coup, Huysmans avait comme forcer la porte d'un autre univers littéraire qui est justement non naturaliste. Et j'avais le sentiment que, tâtonnant, à tâtons et non pas à rebours, d'une certaine façon, mais avec un instinct très très sûr, à rebours, c'était aussi une exploration de tout ce qui est contre-nature.
Oui.
Antinaturel, contre nature. Il y a des pages comme ça sur les attirances homosexuelles,
avec
qui sont vraiment étonnantes pour l'époque.
Missurania, même oui. Bon, à un moment donné, il a.
Cette histoire de Missurania, elle est incroyable, quand même. Oui. Je pensais que c'était un des chapitres que vous choisiriez peut-être, parce que.
Non, parce que c'est la seule femme du livre aussi.
Ben oui, c'est ça.
Enfin, il y a la gardienne, parce que les gardiens, il y a un couple. Hein.
Donc, oui, mais Miss Urania est la seule femme un peu active et qui porte un nom.
Oui.
Et qui est réduite à un rôle.
Mais qui est quand même, justement, qui est quand même dans une ambivalence sexuelle. Enfin, je veux dire, elle est traitée en virilité. Ce que des essaintes aiment chez elle, c'est sa virilité. Là, il y a quelque chose de contre-nature dans l'idée qu'on se ferait d'une homosexualité qui serait contre-nature. Parce que là, pour le coup, il dépeint Miss Urania comme un garçon, enfin comme un homme. Elle est forte, elle est plus forte que lui, elle est trapéziste dans un cirque, enfin je veux dire, c'est une athlète, elle est tout en muscles, etc. Et
elle est américaine, non, aussi.
En plus, alors oui, mais qui est quand même, l'Amérique est quand même, c'est quand même le terrain de la virilité, les grandes machines, voilà.
Et du matérialisme aussi, et du matérialisme, et du capitalisme, et du goût du lucre, des essaintes à horreur du capitalisme, de la bourgeoisie qui cherche toujours à profiter, à faire
du
profit.
Il a horreur de la bourgeoisie.
Ah, oui. En fait, des essaintes est comme une sorte d'énorme potlatch de soi, il ne fait que dépenser. Il est dans la dépense, il est toujours dans la dépense.
Oui, lui, on a peu d'informations sur la manière dont il vit. Mais il dépense énormément. Mais ça, je pense que c'est ça reconduit ce que vous disiez sur Huysmans écrivant. C'est-à-dire qu'on sent que Huysmans claque tout, en fait. Hein. On lui livre des... Enfin, notamment, les seules scènes où l'extérieur arrive, hormis les œuvres, c'est des scènes de livraison. Justement, on lui livre des bois, on lui livre les panneaux, on lui livre les fleurs. Et ces scènes sont toujours assez fugaces, mais finalement des gens lui apportent des choses et il vérifie. Il vérifie, il vérifie que tout est bien là. Pour les fleurs, c'est étonnant.
Oui.
Il compte. Il compte que voilà, il vérifie sa commande. Mais le lien entre la maison de Fontenay et l'extérieur, c'est des livreurs qui lui apportent des choses qu'il a commandées. Mais donc on voit que probablement Huysmans dépense à outrance et ça marche aussi avec une dépense qui est quand même dans tout le livre, qui est la dépense de l'énergie que contient ce livre, ce qui est pas le moindre de ses paradoxes. C'est une énergie, donc je disais, de toutes les pages pour être dans la perception et dans l'idée de l'appréhension du monde sensible qui demande quand même une énergie de chaque instant à des essaintes et une attention très forte. Et en même temps, c'est la dépense de l'auteur, parce qu'il y a une dépense, je trouve, extrême dans ses phrases. Enfin, vous voyez, dans la façon dont elles sont construites, conduites, architecturées, nervurées. Enfin, pour moi, c'est un livre qui est peut-être un livre, d'ailleurs, sur une forme de dépense de soi pour arriver justement à ce moment où presque je dirais pas d'appauvrissement mais d'amoindrissement, la fin est extrêmement ambiguë de ce point de vue là on ne sait pas, il est malade ou alors est-ce que c'en est fini de Fontenay, mais on peut penser aussi qu'il est dans un moment de dénuement et que finalement ce qui reste c'est cette espèce de maladies et de troubles et de peurs et qui va le ramener vers Paris, en fait. Mais je trouve que la dépense, c'est un terme qui caractérise bien à Rebours. Je trouve s'effectue de grosses dépenses dans ce livre, y compris une dépense psychologique
et nerveuse.
Et nerveuse, une excitation. Oui. Il est tout le temps excité, un rien le met regarder un tableau lui fait penser à toutes les médiocrités qui sont défendues et il est extrêmement énervé seul. Enfin, il y a aussi une colère dans ce livre. Hein. Il y a cette excitation, il y a cette dépense-là, la dépense du contre, d'être toujours en contre, ça vous amène à vous dépenser beaucoup plus que de surfer dans le courant. Il est tellement en contre sur chaque finalement aspect de la vie, y compris les aspects affectifs, parce que ce qu'il dit sur les relations, de sa misogynie le montre, il est en compte.
Ça, c'est Baudelaire qui disait que la femme est naturelle.
Voilà.
Ouais. Voilà, ça, oui, c'est et ça. Que c'est ce qui la rend haïssable. Mmh. Mmh. C'est Baudelaire qui disait ça. Oui, oui.
Oui, mais il y a Baudelaire, il y a Edgar Poe.
Être contre, justement, c'est d'abord être contre un monde, contre un monde dont on refuse la médiocrité pour se reconstruire un monde propre.
Contre une espèce aussi.
Et même être contre
l'idée de se reproduire.
Et même les données, naturelles de l'espèce. C'est comme une sorte de tentative de s'arracher à la condition humaine en s'arrachant à son propre corps. Le passage sexuellement le plus explicite de tout le roman, si je me souviens bien, c'est ses rapports avec la ventriloque. Ouais. Ça, c'est... et d'ailleurs...
Oui, alors c'est aussi cette attirance pour les êtres en marge, enfin. C'est
les freaks, les femmes, on dirait les freaks. Freaks, oui.
La femme, la jeune femme... ne l'intéresse pas.
Oui. Il engage une ventriloque, son grand plaisir avec cette ventriloque, vous vous souvenez, ça m'a fait rire, moi, quand même. Ça ne vous a pas fait rire ?
Si, mais je ne comprenais pas bien, c'est-à-dire je me disais, mais est-ce qu'on est vraiment dans ces descriptions quand, au moment où il l'a fait venir, oui, il a une relation avec elle, mais on est dans cette série où il a la relation avec Urania, la relation avec la ventriloque. Mais je pense qu'il y a un passage où il est au début du livre qui
ça,
est
c'est
plus...
C'est donc dans un flashback, hein,
qui est plus explicite. Oui, avant qu'il parte à Fontenay.
Avant qu'il parte à Fontenay, là, effectivement,
mais je crois qu'il y a un passage qui est plus explicite encore.
Mais au début, peut-être.
Oui, au début du livre. Parce que là, il parle clairement de sa maîtresse.
Dans le premier chapitre, d'ailleurs.
Oui. L'avant-premier chapitre.
Mais ce sont des épisodes qui sont...
compactés.
Qui sont tous compactés, les uns dans les autres. Voilà, c'est ces rapports avec
les femmes, les amours
tarifés, etc. Voilà. Mais sinon, l'épisode le plus détaillé, le plus singulier, c'est cette histoire d'avant sa retraite à Fontenay, du temps où il avait encore des relations sexuelles, d'ordre sexuel, parce qu'à Fontenay, il vit seul et ne reçoit personne, et surtout pas de femmes.
Surtout pas de femme,
avec cette ventriloque qu'il engage, et il finit en fait, si je me souviens bien, il finit par se servir d'elle le soir pour lui faire murmurer en tant que ventriloque dans la pénombre, lui faire dialoguer deux bibelots de part et d'autre de sa chambre qui se mettent à réciter des dialogues empruntés à la Tentation de Saint-Antoine de Flaubert.
Mais il y a des moments plus sensuels quand même avec cette première jeune fille dans le chapitre 1 où juste avant j'avais l'impression que il revenait sur réellement des liaisons explicites et des moments où il avait été vraiment, il avait eu une maîtresse. Parce que le ventriloque ou Miss Urania, etc., c'est quand même des épisodes qui sont un peu abracadabrants. Mais il a eu, lui aussi, quand même, il en témoigne, une existence plus intégrée socialement avec une jeune femme.
C'est en quoi la notice est importante. Elle permet de montrer que s'il se retire à Fontenay et qu'il désormais vit à rebours
de l'époque,
du naturel, de l'époque. C'est bien un choix.
Oui, oui.
C'est bel et bien, hein. c'est un choix assumé. Mais deux choses à propos de contre-nature. Est-ce que vous ne feriez pas un rapport, Maïlys de Kerangal, entre ce goût de l'antinature et cette ouverture vers le surnaturel, vers la surnature, vers cette autre issue?
Vous voulez dire via tout ce qui se profile dans le dernier tiers du livre, c'est-à-dire... Le spiritualisme, etc.
Barbet d'Orvilliers, quand il avait rendu compte, Barbet, un auteur que vous admirez et qui vous a conduit
à lire
Huysmans, Barbet avait conclu, je paraphrase vaguement, son compte rendu de ce roman qu'il avait apprécié.
Il ne lui reste plus que les pieds de la croix ou la bouche du pistolet.
Voilà, c'était le choix qui restait à l'auteur.
Ouais.
Voilà.
Donc soit la conversion, soit le suicide.
Soit le suicide.
Ah ouais.
Il citait le cas de Baudelaire. Il disait: Baudelaire a choisi la croix, que choisira Huysmans? Et 20 ans après, dans une préface qui est en fait une postface écrite 20 ans plus tard et que donc Daniel Grozowski a raison de publier en annexe après le roman, parce que sinon on aurait trop tendance à y voir une entrée dans le sens du roman voulu par l'auteur, alors que ça n'est jamais qu'un regard rétrospectif. 20 ans après, Huysmans s'est lui-même étonné par l'acuité du regard de Barbet, qui finalement aurait prévu
sa conversion. Mais cette postface écrite 20 ans après, elle est assez extraordinaire. Enfin, c'est aussi un élément du livre qui est intéressant, parce que c'est un tout autre Huysmans qui écrit à ce moment-là, je trouve. C'est un Huysmans converti, assez apaisé, à mon avis, assez apaisé dans une forme de dinguerie qui l'a stabilisé, je dirais ça comme ça en fait. Il se présente comme un homme converti. Et donc en fait, il faut la lire en fait, parce qu'il ressaisit tout à rebours à l'aune de sa conversion. Et il y voit aussi un espèce de chemin de Damas, un peu dans cette espèce de. Enfin, j'ai l'impression, dans cet exil à Fontenay, il y voit cette espèce de moment de décantation. Vous voyez, comme il y a cette idée du tamisage, du butage, mais il y a cette idée de la décantation. Alors, ça, c'est intéressant, cette histoire de contre-nature et de surnaturel. Effectivement, je trouve que le fait que. Si on reprenait la migration serait logique. Finalement, on part des sphères du naturalisme qui se fortifie, enfin qui s'instaure comme courant littéraire à l'époque. À rebours est quand même la transition, c'est-à-dire un espèce de passage aussi en termes d'espace-temps. Enfin, je veux dire, il va passer un certain nombre de temps dans cette maison, et ça constitue quand même une forme de traversée, une forme de passage, puis il revient et après commence une autre vie qui est celle de la conversion et de son intérêt, de sa curiosité pour le spiritualisme et aussi pour le satanisme, enfin toute la question du mal qui est en filigrane vraiment ici, qui n'est pas évoqué vraiment frontalement mais qui est cité.
Oui, de plus en plus nettement vers le livre.
Plus on avance vers la fin. Donc moi, je trouve que c'est vrai, on aurait vraiment là une espèce de trajectoire où à rebours est le moment décisif où finalement, le moment de la déroute, au sens où il y a un déroutage de Huysmans. Il s'installe dans cette maison et cette expérience le conduit à totalement autre chose.
C'est intéressant cette expression de déroutage ou de déroute, parce que l'une des nouvelles précédentes de Huysmans, et qui d'une certaine façon est presque l'envers d'À rebours, parce que c'est au contraire une nouvelle extrêmement naturaliste et qui décrit non pas un homme très très riche pouvant choisir les matières les plus précieuses, mais au contraire un homme plutôt pauvre et qui n'a pas le choix et qui est obligé de manger ce qu'on lui donne. Cette nouvelle s'appelle À volo.
Ouais.
C'est intéressant. C'est effectivement, après l'exploration de la médiocrité quotidienne qui est effectivement la sienne et dans un cadre naturaliste, il se lance un peu à l'intuition dans une expérience qui va s'élargissant et qui en fait va le conduire à sortir du naturalisme.
Et peut-être qu'on peut aussi à ce moment-là rappeler la présence du fantastique, par exemple. C'est-à-dire que par la lecture de Poe, de Baudelaire, et les traductions que Baudelaire a pu faire de Poe, etc., il y a quand même quelque chose qui... c'est-à-dire que ce... Il y a un tropisme sur le fantastique qui le décroche aussi totalement de cette histoire de petits fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, en fait. Pour le coup, la fin d'À rebours, je dirais vraiment le dernier quart du livre, on sent qu'il y a une espèce de vibration, que c'est ça qui se met à ça devient de plus en plus intense, cette espèce de tropisme vers le fantastique.
Oui,
vers
que ce n'importe où, hors du monde, est en train de chercher cette issue-là.
Ouais, Ouais.
Peut-être. Ouais. Voilà. Je parlais à l'instant d'une nouvelle de Huysmans. Il est déjà 7h15, c'est effrayant. Le temps passe vite. Huysmans était jusqu'à il y a peu un auteur assez rare. Vous l'aurez compris, c'est un auteur qui, à l'image du personnage qui sélectionne ses matériaux, l'auteur, dans À rebours, sélectionne son lecteur. Vous avez dit qu'il n'était pas aimable du tout.
Pas aimable.
Et entrer dans la lecture d'À rebours, c'est entrer dans un club très très fermé. C'est un club dans lequel Huysmans vous accepte, peut-être, si vous lisez jusqu'au bout. Mais
c'est-à-dire que c'est un livre, il faut lire, il faut le lire dans le conte, c'est-à-dire qu'en fait c'est lire, il faut aller contre soi, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée de à rebours de l'époque, à rebours de l'espèce, à rebours du roman et des codes du roman. En même temps, ça implique que le lecteur aille aussi à rebours d'à rebours, en fait. Et notamment, oui, des clichés, parce qu'en fait, par exemple, l'effet de traîne de tout ce qui est en germe dans à rebours, ça pourrait être une littérature plus scandaleuse, enfin, c'est-à-dire avec cette espèce de beauté, d'incandescence formelle et son scandale. Je pense à Céline, par exemple, qui pourrait être dans l'effet de sillage, par exemple, d'un auteur comme je pense qu'il faut se garder de toute c'est un auteur, en tout cas, et c'est un livre qui se résorbe entièrement dans sa singularité. Pour moi, il n'est comparable à rien. C'est aussi parce que c'est une œuvre de transition, et quand je dis il faut aller à rebours, c'est-à-dire pas se laisser piéger par le portrait que l'on fait assez facilement du dandy de la fin du 19e, justement radical, snob, méchant, méprisant et ultra précieux. C'est-à-dire que c'est quand même nervuré de bout en bout par des affects extrêmement sophistiqués, moi je trouve, à rebours. C'est aussi ce qui rend le livre fascinant. Notamment cette espèce de lente marche vers la fin du livre, où on voit, dont j'ai commencé à lire le début, c'est-à-dire par le biais même de la canicule conduite à la méditation autour de cette bouteille. En fait, on est dans un homme qui tombe un peu aussi quand même. Hein. Il y a une espèce d'affaissement. Et je veux dire ça parce que il échappe un peu à toute critique littéraire d'une certaine. Enfin, ce livre-là, peut-être, moi je connais moins les autres œuvres j'ai pu lire En rade, par exemple, que je connais aussi. Mais je veux dire que c'est ce qui fait pour moi le prix de ce livre et sa valeur inouïe, c'est son extrême singularité et son aspect transgressif qui conduit à une découverte littéraire d'une ampleur qui est étincelante, en fait.
Ce que je veux souligner dans ce que vous dites, Maëlys de Kerangal, c'est que effectivement, ça n'est pas simplement un roman décadentiste fin de siècle. Il a pu être lu comme cela par les contemporains. D'une certaine façon, il aura peut-être un peu aussi cristallisé ou inventé ou contribué à installer le paysage fin de siècle, mais c'est beaucoup plus que cela. En fait, c'est un roman qui, en filtrant son époque, s'est chargé de son époque. Ça, c'est très frappant. Vous rencontrez Flaubert, vous rencontrez Barbet, vous rencontrez...
Gustave Moreau, Odilon Redon,
Mallarmé, vous l'oubliez, Mallarmé, en 1886. Mallarmé était absolument inconnu. C'est remarquable de voir vivre... le pari d'un esthète exigeant, et à cet égard, c'est un roman très documenté. Il est naturaliste quand même.
Il est naturaliste quand même,
d'une certaine façon. C'est ça le paradoxe, c'est que, parti du naturalisme, il crée un personnage anti-naturel qu'il décrit avec les armes qui conviennent au personnage. Et le résultat est vraiment remarquable. Mais je voulais dire une autre chose à propos des nouvelles et de la rareté de l'œuvre. C'est que vous ne trouvez pas seulement à rebours à la GF, qui est vraiment, de ce point de vue, un éditeur militant. Vous trouvez aussi les nouvelles de Huysmans, qui sont, à ma connaissance, quasi réunies en un seul volume, quasiment pour la première fois, également par Daniel Grojnowski. Et je voulais signaler...
Je vous l'offre. Merci.
J'enlève le prix, alors. Le prix unique du livre, 6,30 €. Vous parlez d'un cadeau, vraiment, tenez, voilà, je fais de mon mieux, voilà. Mais Daniel Grojnowski m'a appris dans cet ouvrage que Huysmans est l'inventeur de l'expression « humour noir ». C'est lui qui a inventé l'expression « humour noir » en français, je l'ignorais, et je tenais quand même à le dire à propos de Haraubourg. Le temps passe, mais peut-être qu'on n'a pas assez parlé de l'humour de Huysmans dans ce texte. Il y a aussi une part de charge, de provocation,
c'est drôle,
de blague. Il y a des pages d'une drôlerie extrême. Oui. Enfin, on a parlé de la ventriloque, mais il y en a d'autres.
Tout à l'heure, quand j'ai lu, il y avait des passages qui étaient quand même assez drôles. Mais il est drôle dans le contre aussi. Il est drôle dans la provocation, il est drôle dans l'espèce de... Oui, j'allais dire de cette espèce de grincement qu'il fait entendre. Il est rarement, enfin, c'est pas la bonne blague. Hein, c'est quand même un humour. C'est quand même un humour extrêmement raffiné. De toute façon, tout est à lire à l'aune d'un raffinement surnaturel. Mais je trouve que quand même par moments c'est très très drôle. Mais il a assez peu d'humour sur lui-même. Tout de même.
À des essais, t'as ça, non.
C'est pas du tout. Il est quand même lui au premier degré en ce qui le concerne.
Ah oui.
Et voilà, ça dit tout, je trouve.
Ça, c'est
parce
sûr.
Parce qu'en fait,
il ne sort pas de son propre monde par le rire, ça c'est certain. Mais Huysmans nous permet de le faire à ses dépens.
Voilà,
je pense au chapitre 4, on conclura là-dessus, parce que vraiment, malheureusement, l'horloge tourne et nous avons un très beau spectacle en grande salle. Mais d'un contemporain de Huysmans, d'ailleurs, n'est-ce pas? Finalement,
Edmond Rostand.
Le chapitre 4 est consacré à l'importation par des Essaintes d'une tortue. Une grande tortue.
C'est très drôle. Ça, c'est magnifique.
Oui, hein,
c'est magnifique ça.
Alors, je vous laisse
c'est
raconter.
Un passage très très célèbre.
Bah oui, je vous laisse raconter.
C'est presque un des passages les plus célèbres d'Haraubourg. Donc, il fait venir cette tortue et qu'il va sertir de pierreries, de bijoux. Il va en sertir la carapace.
Il fait dorer la carapace à leur fin.
D'abord, oui. Ouais. Il en fait un bijou. Et d'ailleurs, je repense par rapport à cette histoire de contre-nature et de surnature. Quand même la carapace d'une tortue qui est déjà ce dessin et cette espèce de chose très étrange, assez vernissée. Mmh. Il va la recharger, en fait. Mmh. Et la charger en la sertir de bijoux et elle va en mourir en fait. Ouais. Elle va mourir sous le poids de ces pierres.
Il se commande cette tortue qu'il confie à un orfèvre. Vous avez plusieurs pages sur le choix de chaque pierre. Là encore, c'est superbe. C'est comme les couleurs tout à l'heure, les nuances des tentures. Il fait incruster, selon un dessin à la japonaise que lui-même a élaboré. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'il estime que sur son tapis, qui est absolument sublime, évidemment, et choisi selon les critères les plus aigus, sur son tapis, il manque un mouvement. Il faudrait un mouvement, voilà. Mais pas trop rapide. Voilà. Donc,
une tortue.
Cette pauvre tortue remplit comme elle peut tout un chapitre en se faisant incruster comme ça. C'est un peu comme la métamorphose de Kafka, c'est terrible, c'est comme Samsa, cette tortue. Et à la fin du chapitre, quoi, bon, des essaintes médites, réfléchies, voilà.
On a beaucoup vu
à la fin, elle est morte. Ouais. La fin du chapitre, la tortue, tout d'un coup, il la regarde, elle ne bouge pas, elle est morte.
Ça pèse, en fait.
Oui.
Alors, il y a cette idée que c'est l'idée de la surcharge, en fait, à ce moment-là. Et c'est vrai que. Je pense que c'est un passage aussi qu'on a pu lire comme une espèce de charge contre, je sais pas, tout ce qui pouvait être justement ampoulé, surchargé, notamment peut-être qu'il pouvait faire référence à une espèce de goût de la bourgeoisie pour tout ce qui pourrait faire riche, etc. Mais en fait, je pense pas. Je pense que c'est... Enfin, moi,
on peut rire du personnage.
Oui, on peut, mais moi, je pense réellement que Des Essaintes est dans cette espèce Je ne pense pas qu'il y a à ce moment-là une volonté de Huysmans de souligner un quelconque ridicule de son personnage. Je pense qu'on est un peu dans un premier degré, sinon vous.
Ah, cette fin où des Esseintes est complètement parti dans son rêve d'ultra esthète, il baisse les yeux sur la tortue et elle est morte. Alors qu'il l'avait achetée pour qu'elle bouge. Mais non, je voulais juste conclure sur cette réaction d'Émile Zola qui a écrit le 20 mai 1884 à Huysmans après avoir reçu le volume. Vous trouvez ça notamment, même le dossier est passionnant, vous voyez, c'est vraiment le travail de Daniel Grochnowski remarquable, mais voilà. La tortue exquise, il a aimé, hein, il prétend qu'il a aimé, la tortue exquise, surtout avec sa branche de pierrerie qui est d'un joli raffinement. Une préoccupation de bourgeois m'a travaillé. Il est heureux qu'elle crève, car elle aurait fait caca sur le tapis.
Super.
Merci beaucoup. Ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup. Et bisous à vous, hein, c'est super.